Bonjour à toutes et à tous, non? C'est ouvert? J'ai une lumière orange au lieu d'une lumière verte. C'est bon signe ou c'est pas bon signe? Orange, en général, c'est pas très bon comme signe.
Ça va aller? C'est pas grave. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très content d'être avec vous.
Ah, il est vert maintenant.
Voilà, c'est bon. Vert, c'est mieux. Ça veut dire que je peux passer. Voilà, ça y est, vous m'entendez là. Rachel et moi sommes arrivés sur Paris en début de semaine. On a juste eu le temps de voir votre pasteur avec son épouse et leur garçon avant qu'ils partent. Et j'aimerais vous demander, vous savez que quand vous voyez les Dufour, en général, c'est que le mois d'août est arrivé. Et c'est le moment où, en fait, votre pasteur prend ses congés. J'aimerais vous encourager à prier pour Yvan, Nathalie, le petit Ethan. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a toujours des défis immenses devant l'église de Créteil, c'est pas vrai? Il y a toujours des challenges, il y a de bons challenges, vous êtes en pleine croissance, et c'est pas vous que j'apprendrai que Paris est un endroit où pour se loger, c'est pas toujours facile. Donc en fait, vous avez des challenges énormes devant vous, c'est un défi de foi. Et combien d'entre vous croient que votre leader a besoin d'être conduit par Dieu? Il a besoin d'être béni dans son intimité avec Dieu, d'être renouvelé, il a besoin d'être béni dans son couple, il a besoin d'être béni dans sa famille, il a besoin d'être béni dans son ministère. Et cela dépend aussi de vous. Vous avez la puissance de tenir ses bras levés devant le trône de Dieu. Qui veut y participer? C'est tout? La moitié seulement? Non, plus que ça. Amen. Bon, maintenant vous allez élargir le cercle. Tous ceux qui travaillent avec Yvan ont besoin de la même chose. Tous ceux qui ont un service dans cette église, quel que soit le service, ont besoin de la même bénédiction. Tous ceux qui rentrent dans cette salle ont besoin de la même bénédiction. Tous ceux qui ne sont jamais entrés dans cette salle ont besoin de la même grâce. Combien d'entre vous ont besoin de voir cette salle remplie comme un œuf à craquer? Parce que le monde en dehors n'est pas sauvé. Parce qu'il y a moins de 1% des Français qui sont nés de nouveau. Ça vous dit quoi à propos des terres de mission? C'est David qui a tout compris. La France est une terre de mission. Et cela dépend de vous aussi. Le Seigneur ne nous a pas appelés à prendre notre retraite, il nous a appelés à le servir jusqu'à ce que lui nous dise « Bien, entre, bon et fidèle serviteur, ton temps est révolu, maintenant viens te reposer. » Je vous encourage vraiment à penser à Yvan et sa famille, à lever vos mains devant le trône pour lui, parce que dès la rentrée, eh bien, il y aura de grands défis et ils ont besoin. On n'a pas le temps de se tromper. Les temps sont trop courts, il faut qu'on réussisse le plus vite et le mieux possible. Et avec Dieu, c'est possible, c'est son plan. Je voudrais vous inviter à parler ce matin, et à écouter avec, c'est surtout moi qui vais parler, mais c'est aussi une écoute active, vous pouvez y réfléchir, à parler d'un thème qui n'est peut-être pas souvent abordé. J'ai appelé mon message « Quand les héros sont fatigués ». Ça reprend le titre d'un film, mais ces héros, c'est vous et c'est moi. Nous sommes appelés par l'écriture des saints. Combien d'entre vous peuvent dire « mon mari ou ma femme, c'est une sainte ou un saint » Oui, ah, il y en a qui ont levé puis qui ont baissé la main. C'est parce que vous vous trompez sur le sens du mot « saint ». Un saint, c'est quelqu'un qui a été mis à part pour Dieu, pas quelqu'un de parfait. Donc oui, vous pouvez lever la main. Nous sommes tous des saints, nous avons été mis à part pour Dieu. Et c'est le désir de Dieu pour tous ceux qui sont ici. Mais il arrive que même les croyants les plus fidèles tombent. Et c'est ce dont j'aimerais parler ce matin. C'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet dont on parle régulièrement. Et pourtant, ce qui est terrible, c'est quand on vit dans l'hypocrisie. Il faut pas se voiler la face, ça arrive. Vous êtes peut-être tombé vous-même, vous avez peut-être connu quelqu'un, vous connaissez sans doute quelqu'un à qui c'est arrivé. Je voudrais vous inviter à lire dans le texte de la Genèse, au chapitre 9, les versets 18 à 29. Genèse 9, les versets 18 à 29. Dans la version du Semeur. Tout le monde est arrivé? Les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem, Cham et Japhet. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors, Sem et Japhet prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules, Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères ». Puis il ajouta « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave ». Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Amen. Vous avez remarqué, il vivait tard, il vivait longtemps à l'époque. Certains vous diraient, mais ces textes-là, ce sont des textes symboliques, ces gens n'ont jamais existé, comme Adam et Ève, tout ça, c'est de la légende. Eh bien, moi, je vous dirais, si Jésus y croyait, si Jésus a parlé d'Adam et Ève, il a parlé de Noé, j'ai la faiblesse d'y croire aussi. Et je crois que ces gens-là n'étaient pas des légendes, mais sont des gens qui ont véritablement existé. Est-ce que je comprends comment c'est possible? Non, je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. Du moment que Jésus, lui, le comprenait et y croyait, ça me suffit. Pas vrai? C'est un texte incroyablement ancien, puisqu'il est dans le tout premier livre de l'Écriture, et en même temps, il est étonnamment moderne par sa thématique, par les solutions aussi pratiques qu'il apporte. J'aimerais voir trois points. Je voudrais parler du problème de la chute du croyant avec vous. Parler du cœur de Dieu, en second point, par rapport à ce problème, et parler de la solution de Dieu, parce que le Seigneur a toujours une solution à nos problèmes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Comment comprendre ce problème? Nous sommes juste après la fin du déluge. C'est une nouvelle ère pour l'humanité, c'est quelque chose de neuf, c'est un nouveau départ qui est offert à tous ceux qui ont cru à la prédication de la parole que Noé donnait. Ils n'étaient pas très nombreux, c'était juste lui et sa famille. Mais néanmoins, c'est sur cette famille que Dieu a rebâti l'humanité. C'était un nouveau départ, il y avait un nouvel avenir, de nouveaux projets, et quelque part, ça ressemble à notre nouveau départ. Le jour où nous avons cru, Dieu nous a donné une seconde chance. Il nous a donné un nouveau départ avec de nouveaux projets, un nouvel avenir, et nous avons une espérance pour cette vie et une espérance pour la vie d'après, pour la vie éternelle. C'est le nouveau départ que nous vivons aussi. Mais est-ce vraiment un nouveau départ? À peine sorti de l'arche, peu de temps après avoir passé une alliance nouvelle avec l'Éternel, Noé, dont l'Écriture dit qu'il était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains, qui conduisait sa vie sous le regard de Dieu, qui avait la faveur de Dieu, il s'enivre sous sa tente et il se promène tout nu. Ouch. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, est-ce que ce genre de choses arrive? Tu m'as donné une vie nouvelle, tu m'as donné un nouveau départ. Je croyais que tout serait facile, je croyais que ça irait bien, que je ne me recasserais plus la figure. Et puis arrive un jour qui n'est pas fait comme les autres, peut-être qui est l'addition de jours mauvais, et je me recasse la figure. Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais je pense que la plupart d'entre nous savent de quoi je suis en train de parler. J'aimerais pouvoir vous dire, depuis ma conversion, je n'ai jamais péché. J'ai toujours compris ce que Dieu voulait faire avec moi. J'ai toujours dit oui au bon moment. J'aimerais bien pouvoir vous le dire. Alors, je peux peut-être essayer. Ma femme, je ne la vois plus. Elle n'est plus là. Elle doit être en bas. Donc, je peux essayer de vous mentir. Mais là, elle dirait, hop, oups, non, ce n'est pas vrai. Et non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'à peine sauvé, le péché est encore tapis à la porte de notre cœur et tape à la porte de notre cœur. Quelle déception! Quelle désillusion! Comment est-ce que Noé, qui était le prédicateur de justice, qui avait annoncé sans relâche pendant 120 ans le jugement à venir, qui a été fidèle au milieu d'une génération perverse, il a tenu bon la route, il a marché sur le droit chemin, et il tombe ainsi d'une manière qui est choquante, qui est difficile à comprendre. Comment est-ce que c'est possible après toute la grâce qui lui a été faite? Alors on pourrait essayer longtemps de comprendre, peut-être qu'il s'est relâché, qu'après un tel combat pendant 120 ans, après un tel effort spirituel, il a eu un coup de pompe. Et ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Quand on a mené un long combat, quand on a donné tout ce qu'on avait, quand on s'est battu, et même s'il y a eu une victoire au bout du compte, on peut avoir spirituellement un moment de décompression tel qu'on se relâche et que l'on peut tomber dans le péché. Peut-être que c'est arrivé à certains d'entre nous. Et c'est là où on se dit, mais comment c'est possible après une telle victoire que je fasse ça, mon Seigneur? Comment c'est possible? Puis on s'arrache les cheveux. Il peut aussi avoir eu dans son cœur une espèce de rébellion par rapport à la destruction de toute l'humanité, à part sa famille. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? On peut avoir imaginé un moment de découragement dans son cœur qui l'ait amené à avoir un acte inconsidéré. Le découragement, la dépression, ça peut aussi toucher ceux qui marchent avec Dieu. Parce qu'on ne comprend pas toujours tout ce que fait le Seigneur et parfois c'est difficile pour nous d'admettre certaines choses. Certains ont dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient ignorants parce qu'avant ils n'avaient jamais plu sur terre, donc le raisin n'avait pas de moisissure, donc il ne se transformait pas en vin. Je laisserai ça à nos collègues américains, peut-être qu'ils ont une meilleure réponse que nous. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Ce que je sais, c'est que ça, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'Arche de l'Alliance, c'était que l'ombre des choses à venir, que l'ombre de la croix. Et ce que je réalise, en fait, c'est qu'aujourd'hui encore, bien que nous marchions avec Christ, que nous soyons consacrés à lui, il nous arrive de tomber. Et parfois de tomber d'une manière dramatique. Est-ce qu'on est surpris? Ça ne devrait pas être. Je n'aimerais pas avoir à vous en parler. J'aimerais pouvoir vous dire le jour où vous êtes convaincu de péché, que vous donnez votre cœur à Jésus, eh bien c'est le début d'une pente qui monte vers le ciel sans aucun accroc. Ce serait tellement beau de pouvoir le dire. Et c'est l'objectif. Mais si nous voulons être honnêtes et vraiment nous aider les uns les autres, nous encourager, nous exhorter, il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que malheureusement, ce n'est pas une flèche qui monte vers le ciel. Il peut y avoir des hauts et des bas. Notre prière, c'est qu'il y ait le moins de bas possible et le moins profond possible. Mais quand il y a un moment bas, eh bien il faut que nous soyons réaliste, que nous sachions ce qui se passe et que nous puissions ensemble réagir de la bonne manière et apporter la solution qui est la solution que Dieu veut voir apporter au milieu de son peuple. Nous avons besoin de marcher dans la sanctification parce que notre vieille nature sera toujours encline à se détourner de Dieu aussi vite que possible. Sans la présence du Saint-Esprit en nous, je ne vous donnerai pas une heure, ni à moi ni à vous, pour retomber dans nos péchés. C'est pour ça que l'Écriture, partout, nous exhorte à marcher dans la sanctification. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire à devenir sur terre ce que nous sommes réellement spirituellement, des fils et des filles du roi assis sur le trône éternel. Et jour après jour, ça doit être mon objectif, que petit à petit, je me vide de moi et que je me remplisse de Christ et de ma nouvelle nature qui est cachée en lui. Plus je puise en Christ, plus je développe la nature qu'il veut que j'aie. Plus tu deviendras semblable à ce qu'il veut pour toi. Mais c'est un objectif. Et tant que nous sommes dans ce corps, eh bien nous savons que nous sommes limités, que nous avons des combats. Et si nous sommes saints, c'est-à-dire mis à part, ça ne veut certainement pas dire que nous sommes parfaits. Et ça, vous le savez tous comme moi. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de marcher dans la sanctification? Parce qu'une seule erreur commise peut mettre à terre des années de fidélité. Vous connaissez le test du point noir au milieu d'un drap blanc? S'il y a un tout petit point noir au milieu d'un drap blanc et que je vous demande qu'est-ce que vous voyez, 90% d'entre vous vont me dire il y a un point noir. Mais les 99% du drap blanc n'auront plus aucune importance parce qu'il y a un point noir. Et c'est ce que le diable veut faire avec le péché. Qu'on ait été fidèle pendant des années, c'est comme si d'un seul coup tout était effacé parce qu'on s'est cassé la figure. C'est comme si c'était la fin de la course, c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir après. Et plus nous sommes élevés dans un service pour Dieu, plus dangereuse la chute devient. Parce qu'aussi nous devenons une cible de l'adversaire et il cherchera à vous faire tomber pour que non seulement vous vous tombiez, mais qu'un grand nombre soit emporté avec vous. Et quand nous connaissons les plans de l'adversaire, eh bien nous sommes équipés et nous connaissons son désir, eh bien nous pouvons mieux réagir contre ses projets. Il fait une œuvre qui le trompe. Et le désir de Dieu, ce n'est pas que nous restions tombés dans le fossé à l'écart, mais que nous puissions redémarrer, nous relever et repartir. Est-ce que Noé a été rejeté par Dieu après sa chute? Est-ce que ses 120 années de fidélité et plus ont été effacées d'un seul coup parce qu'il s'était enivré pour une raison que Dieu connaît et que Noé peut-être connaissait aussi? Il a chuté. Est-ce que la grâce s'est échappée de sa vie? Parfois dans l'Église, on vit comme si la grâce était pour les inconvertis, pour rencontrer Jésus, avoir le pardon de ses péchés. Puis une fois que nous sommes entrés dans l'Église, c'est comme si la grâce disparaissait, c'est la loi qui vient. Et alors, il faut mener une vie absolument parfaite, et je ne dis pas je ne vous encourage pas à faire n'importe quoi, bien au contraire, mais il arrive que nous tombions. Il arrive que nous tombions. C'est pour ça qu'il est important de comprendre à ce moment le cœur de Dieu, par rapport au problème du péché de son enfant. Si nous réfléchissons à l'exemple de David, le roi d'Israël, à un moment donné dans sa vie, il était vainqueur de tous ses ennemis. Il avait une telle intimité avec Dieu que le Seigneur l'appelle l'homme selon mon cœur, selon le cœur de Dieu. Voilà ce que Dieu dit de son serviteur David. Et pourtant, c'est à ce moment précis qu'il va tomber de toute sa hauteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va relâcher sa vigilance pour un peu de temps seulement, dit l'Écriture. Un tout petit peu, pas longtemps, mais un peu de temps. Il a relâché sa vigilance, il n'est pas allé au combat avec ses troupes, il ne s'est pas porté à la tête de ses troupes, il s'est mis en arrière, il s'est accordé un repos à un moment où, visiblement, Dieu ne lui avait pas dit de s'accorder un repos. Il s'est accordé un repos par rapport à sa marche fidèlement, par rapport à sa sanctification. Et puis un soir, il s'est adonné au-dessus, pendant que ses hommes combattaient, il s'est adonné, lui, à un certain plaisir. Et puis, l'adultère dans ses pensées est venu, parce qu'il est venu au travers de ses yeux. Il n'a pas été vigilant sur ce qu'il mettait devant ses yeux. Il s'est cassé la figure. Ensuite, il y a eu complot, meurtre et toutes sortes de choses, toutes sortes de souffrances. Et malgré cette chute, est-ce que Dieu lui a offert son pardon? Oui. Le Seigneur l'a rétabli malgré une telle chute. Et qui que nous soyons, d'aussi haut que nous soyons tombés, quel que soit ton péché, mon frère, ma sœur, le désir de Dieu, c'est de te rétablir. Le désir de Dieu, c'est de prendre ta main, de te dire « ne reste pas là où tu es ». L'objectif de Dieu n'est pas de t'écraser sous le poids de ton péché, de te dire « après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que je t'ai donné, tu es tombé, eh bien maintenant reste-y ». Ça, parfois, c'est ce que nous pensons, ce n'est jamais le cœur de l'Éternel, ton Dieu. Le cœur et la philosophie de Dieu, nous le trouvons dans la première épître de Jean, premier chapitre, les versets 8 et 9. Voilà ce que nous pouvons lire. « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. » Amen. La philosophie de Dieu, c'est que tu reconnaisses exactement là où tu en es, que tu cesses d'être hypocrite, ou bien que tu cesses de t'apitoyer sur toi-même et de te condamner, reconnais ta situation et repens-toi. Parce que sans la repentance, il n'est pas possible de revenir vers lui. Mais par contre, si tu te repens, le désir de Dieu, c'est de te relever. Parce que l'Écriture me dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Les promesses que l'Éternel a faites en Jésus-Christ pour ta vie sont oui et amen, et notre péché ne nous détourne pas de ces promesses. Elles demeurent les mêmes pour nous, éternellement, parce que Dieu ne peut pas se renier. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce n'est pas parce que tu as mis un genou à terre que l'appel de Dieu dans ta vie a disparu. Que Dieu se dit, eh bien, je regrette, mais je retire. Si nous nous maintenons dans le refus de nous repentir, si nous endurcissons notre cœur au-delà d'une certaine limite, alors peut-être cela peut arriver. Mais si tu as le désir de marcher avec lui, une chute ne signifie pas la fin de la route avec Christ. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous, peut-être ce matin, sont prisonniers de toutes sortes de jugements, de culpabilités, de condamnations, et il leur semble que c'est fini, que ce ne sera plus jamais possible de se relever et de redémarrer. J'aimerais vous dire que peu importe là où vous vous trouvez ce matin, qui que vous soyez, ce que Dieu veut, c'est que nous finissions victorieux. Amen. Avec la tête haute. Il ne voit pas le péché comme nous. Jésus a payé le prix du péché. Il en voit le prix immense. Mais en même temps, il a payé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est accompli. Nous ne pouvons pas payer le prix de notre péché. Et ce n'est pas en nous frappant la culpe, en nous punissant nous-mêmes, qu'on va payer quoi que ce soit. Le seul qui ait un mot à dire par rapport au péché, c'est Christ. Et il nous dit, repens-toi, ne reste pas là où tu es, viens vers moi, on en discute dans la repentance et relève-toi. Le désir du Seigneur, c'est que tu sois victorieuse et victorieux. La grâce divine, elle n'est pas basée sur nos mérites personnels, mais seulement sur le sacrifice de Jésus. Nos fautes peuvent attrister le Saint-Esprit, mais elles ne diminuent pas et ne diminueront jamais l'amour de Jésus pour toi. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi ? Parce qu'il nous a aimés et a porté notre péché à la croix bien avant que nous ne le connaissions. Bien avant que nous n'ayons fait quoi que ce soit, il nous a déjà aimés au moment où nous étions les moins aimables. Donc ton péché ne diminue pas l'amour de Jésus-Christ pour ta vie. Pas plus que tes bonnes œuvres n'augmentent son amour pour toi. Il nous aime, point. Et on ne gagnera rien de plus à être fidèle dans son amour. Il nous aime et son amour ne change pas. Il est le même hier. Il faut le croire, il ne faut pas simplement le dire, il faut le croire. Alors maintenant, le dernier point, quelle est la réponse, quelle est la solution de Dieu par rapport à ce problème? Quelle aide est-ce que l'on peut apporter dans de telles circonstances? Comment détruire les plans de l'adversaire qui sont établis contre nous, ou bien contre notre frère ou contre notre sœur? C'est là que le texte devient extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, les trois fils de Noé vont apporter deux réponses complètement différentes au problème de leur père. Et j'aimerais qu'on regarde cela ensemble, parce que ces deux sortes de réponses sont toujours actuelles dans le peuple de Dieu, au sein du peuple de Dieu. La première, c'est celle de Cham. Il est le premier qui va découvrir la faute de son père, et quand il le découvre, au lieu de se dire « mais qu'est-ce que je peux faire pour aider mon papa, pour aider celui qui m'a donné la vie et qui m'a permis de croire au salut ?» qui m'a permis d'être en vie aujourd'hui avec ma femme et mes enfants, qu'est-ce que je peux faire pour lui sauver la face? Quelle va être sa réaction? Il va laisser là son père, sans aucune aide, sans compassion, et il va tout aller raconter à ses frères et à leur famille ce qui s'est produit. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que l'on voit trop souvent en notre sein, dont nous avons peut-être été coupables nous-mêmes. Et malheureusement, on a fait le plan de l'adversaire, on n'a pas fait la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe-t-il? En fait, il rend l'erreur publique, il apporte la honte et la confusion sur Noé et il n'offre aucune solution à la difficulté. Il est en mode accusatoire, il montre du doigt, il dit « Oh, regardez notre père ce qui lui est arrivé ». Peut-être même en rit-il, je ne sais pas, le texte ne le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a comme souvent dans notre cœur un plaisir à rapporter la faiblesse de quelqu'un d'autre et puis on médit. Et puis on calomnie. Et quel est le fruit de tout cela? Est-ce que le fruit est bon? Est-ce que ça nous met en valeur pendant quelques secondes, on se dit « je suis meilleur que cette personne » Mais c'est une dangereuse position à tenir. Est-ce qu'il a agi par ignorance? Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il était désorienté? Mais en tout cas, il n'a demandé aucune aide à ses frères. Est-ce qu'il avait un problème de cœur? Est-ce qu'il avait de mauvaises motivations? Sans aucun doute. Mais il a choisi d'amener la honte et la condamnation au lieu de chercher un moyen pour aider son père. Et il ne faut pas que cette philosophie, il ne faut pas que cet état d'esprit soit au milieu de nous. Quand Jésus-Christ a vu la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, il ne l'a pas condamnée. Il lui a dit « va et ne pêche plus ». Ça c'est la repentance, le changement de vie. Mais il lui a dit « tes péchés sont pardonnés, je ne te condamne pas ». Et notre Seigneur ce matin est le même, et ses paroles qu'il a prononcées à l'égard de cette femme sont les mêmes qu'il prononce à notre égard ce matin. Le Seigneur ne veut pas nous condamner, il veut que nous réalisions ce qui nous est arrivé et que nous nous relevions. Maintenant, regardons la solution qu'ont apporté Sem et Japhet. Dès qu'ils ont appris l'erreur de leur père, ils vont d'abord reconnaître qu'il y a un problème. Ils auraient pu se dire « oh ben c'est... bon, t'es sûr, c'est vrai? Non, on va pas s'en occuper. C'est notre père, on va. » Ils auraient pris le risque de laisser Noé se promener en dehors de sa tente, nu, et de contaminer encore plus de monde avec ce qui était arrivé. Ils n'ont pas nié l'existence d'un problème. Quand nous nions l'existence du péché, nous le favorisons, nous donnons une main d'association à l'adversaire. Ce n'est pas une meilleure solution que de montrer du doigt et d'accuser. C'est de la même manière faire la volonté de l'adversaire. Ils ne se sont pas détournés donc, ils n'ont pas fait comme si de rien n'était, ils n'ont pas nié le problème, mais ils ont appliqué là une philosophie qu'on trouve dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 18, vous pourrez le lire si vous en avez envie, quand il nous a dit « si ton frère a péché contre toi, va le trouver, convainc-le de sa faute et que cela se passe en tête à tête. » Puis vous connaissez après que s'il résiste, trouve une autre personne et puis après seulement tu peux le rendre public, mais pas avant. Parce que le désir de Dieu c'est de réhabiliter son enfant. Alors les deux frères vont prendre leur courage à deux mains pour affronter la difficulté. Ils vont tout d'abord se mettre d'accord pour travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'à deux, on est plus fort que seul. Parce qu'à deux, il peut y avoir plus de sagesse. C'est dans le nombre des conseillers que le Seigneur s'exprime. Ils vont réfléchir ensemble à trouver une sortie de crise qui soit décente pour leur papa. Et ils vont la trouver, ils vont placer une couverture sur leurs épaules, ils vont reculer afin de ne pas voir la nudité de leur père, ils vont l'entourer avec cette couverture, ils vont le recouvrir, ils vont le protéger, et ils vont lui permettre ainsi de garder non seulement sa dignité d'homme de Dieu, mais de pouvoir continuer à servir Dieu après. Et ça, mon frère et ma sœur, c'est la philosophie de Dieu, ça c'est le cœur d'amour de Dieu, ça c'est la solution que Dieu veut voir mise en pratique au milieu de nous. Et la philosophie qui est derrière, on la trouve dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 6, les deux premiers versets. « Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin. Comment ? Avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Amen. Si aujourd'hui tu es en position d'aider un frère ou une sœur qui est tombé, fais-le. Mais fais-le avec l'esprit de douceur et d'amour de Christ. Fais-le avec le désir non pas de découvrir le péché et d'humilier publiquement, mais avec le désir d'aider secrètement si possible, le mieux possible, pour que ce frère ou cette sœur puisse ensuite continuer de servir. Fais-le et ne te dis pas « qu'est-ce que je suis meilleur que telle ou telle personne ?» parce qu'un jour, le vent peut tourner et la mesure avec laquelle tu auras traité ton frère ou ta sœur sera la mesure avec laquelle tu seras traité toi-même. Et bien souvent, on réclame la grâce quand nous-mêmes, nous n'exerçons pas à l'égard des autres. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Nous sommes le peuple des élus, des rachetés, et nous devons manifester Christ. Et nous sommes au bénéfice de sa grâce. Des deux démarches différentes, l'une démarche a amené la malédiction et l'autre la bénédiction. Une a eu pour fruit la division au sein d'une même famille et l'autre la réconciliation. Une a amené la condamnation et l'autre la grâce. Une n'a pas pour but de relever mais d'écraser, l'autre a pour but de rétablir. Et être rétabli selon les critères de Dieu, ce n'est pas être moins que nous étions avant. Pensez à l'exemple de Pierre qui a renié Jésus 3 fois publiquement. Quelle église lui aurait confié la première prédication ? Pour la création ensuite de l'Église avec un grand E. Qui d'entre nous aurait dit ben, « moi je l'aurais fait, pas de problème ». Je pense qu'en toute honnêteté, s'il avait été dans mon assemblée, je lui aurais dit « écoute Pierre, tu vois la dernière chaise au fond là-bas, il y a ton nom dessus. Et tu t'es mis à l'épreuve pendant 3 ans et puis après on verra. » C'est pas vrai ? Soyons honnêtes. Quand Dieu rétablit son enfant, il le rétablit au même niveau. Parce qu'il nous redonne complètement sa confiance. Pierre s'est repenti et le Seigneur lui a redonné sa position. Et je peux vous dire, je suis sûr qu'il n'a plus jamais été le même parce qu'il avait appris la leçon. Parce qu'il avait grandi en reconnaissant sa faute et en apprenant le pourquoi des choses et en apprenant comment être victorieux. Et c'est là qu'est toute la différence. Quand il y a condamnation, accusation ou bien négation du péché, on n'apprend rien. On cache. On condamne, on écrase, mais on ne construit rien. Le désir de Dieu, c'est que nous nous construisions. Il sait que nous allons tomber, mais ce qu'il veut, c'est que, comme quand on a appris à faire du vélo, vous n'êtes pas arrêté la première fois que vous êtes tombé, non ? Combien de fois vous êtes tombé quand vous avez appris ? Quand votre papa ou votre maman ou votre grand frère ou votre grande sœur disaient « je te tiens », c'est pas vrai, ça fait au moins 10 mètres déjà que vous étiez tout seul. Et puis quand vous réalisez que vous êtes tout seul, vous êtes cassé la figure. Comme on a tous quasiment connu ça, eh bien c'est la même chose avec Christ. Il veut que nous nous relevions ensuite. Quand le père du fils prodigue a vu son fils revenir, il a couru vers lui, il l'a juste écouté pour qu'il lui dise « je me repens, pardonne-moi ». Après, il ne l'a plus écouté parce qu'il voulait être un esclave. Et le père dit « c'est hors de question, tu auras le sceau de l'héritage, tu retrouves ta bague, tu retrouves ta robe de racheté ». Tu retrouves des sandales, tu retrouves ton honneur et ta dignité parce que je te rétablis dans tout ce que tu es. Et ce matin, c'est la parole de Dieu pour nous. Dieu veut nous rétablir dans tout ce que nous sommes. Si quelqu'un est piégé en ce moment par toutes sortes d'accusations, ce que le Seigneur veut, c'est que tu relèves ton visage, que tu sortes de l'ornière et que tu sois rétabli complètement dans toute la maison de Dieu, dans tous ses projets pour toi, pour ta vie. À un moment, Paul dit dans le livre aux Éphésiens que nous avons besoin de découvrir la largeur, la profondeur, la hauteur, l'immensité de l'amour de Christ qui va changer qui nous sommes. Nous ne comprenons pas l'amour de Dieu parce qu'il nous dépasse. Mais en 21 ans de ministère, je me suis aperçu que la plus grande des armes, la plus puissante de toutes, c'est l'amour de Dieu. Quand on aime de son amour, on peut tout obtenir, on peut tout demander. On peut voir des montagnes être transformées parce que son amour nous donne sa conception des choses, la foi dont nous avons besoin. L'amour est l'arme la plus puissante que Dieu nous ait laissée. Malcolm X, un musulman aux États-Unis, avait dit un jour, mais quand Martin Luther King avait ce genre de discours, il dit, mais c'est pas intelligent d'aimer vos ennemis. Il avait raison, c'est pas intelligent, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et la sagesse de Dieu confond l'intelligence des intelligents. Aimer nos ennemis, c'est pouvoir les confondre, les faire fondre. Là où ils attendent une réaction de violence, eh bien, ils seront désarçonnés parce que l'amour de Dieu peut renverser toutes sortes de cœurs et de montagnes. Et cet amour, il n'est pas valable que pour ceux du dehors, il est encore plus valable pour ceux qui sont au-dedans, ceux qui sont déjà ses enfants. Le Seigneur veut que nous nous pardonnions réciproquement et que nous grandissions dans son amour. Donc souvent pour savoir, et je vais conclure par cela, pour savoir si nous avons compris la grâce, regardons notre réaction par rapport au péché des autres, pas seulement le nôtre, mais aussi ceux des autres. Regardons si nous sommes en mode accusatoire, en mode critique, en mode calomnie, ou bien si nous sommes en mode comment je pourrais faire pour aider mon frère ou ma sœur. Parce que si tu as vu le péché de ton frère ou ta sœur, peut-être que Dieu attend quelque chose de toi. C'est qu'au minimum déjà tu pries pour cela. C'est que secondement, tu prennes ton courage à deux mains et que tu ailles voir ce frère ou cette sœur pour en parler avec amour et dire ensemble on va prier, ensemble on va voir comment on peut s'en sortir. Souvent, le péché de l'autre nous permet de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à la grâce. Et n'oublions pas que si Noé a été nu, nous aussi nous avons été nus en Adam et Ève à cause de notre péché. Et qui est-ce qui a couvert notre nudité ? C'est Christ. Vous savez, quand on représente la croix, on la représente toujours d'une manière très chaste. Jésus a un petit linge sur ses parties. Mais les Romains n'étaient pas aussi prudes ni chastes. Ils crucifiaient nus pour ajouter l'humiliation à la souffrance. Et Jésus a été dépouillé de tout pour que nous soyons rhabillés de tout l'héritage, de la robe, de la bague, de tout ce qui signifie que nous sommes fils et filles du roi. Nous étions nus. Et il nous a couverts par son sang. Alors, il faut que nous nous en souvenions. Tomber est un accident de parcours. Se relever, continuer à être son témoin, ça c'est l'objectif que nous devons poursuivre. C'est l'objectif de la grâce. Reconnais donc, mon frère ou ma sœur, la distinction entre la culpabilité et la conviction de péché. Quand il y a culpabilité, il n'y a aucune issue. Et ça, c'est le signe que ça ne vient pas de Dieu, que ça vient de l'adversaire. Quand il y a conviction de péché, il y a toujours une main tendue. Et ça, c'est le signe que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Apprends à faire la différence entre les deux. Apprends à reconnaître les deux. Noé, après cette histoire, a vécu encore 350 ans. Ce n'est pas une paille. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vivre 350 ans, ni 900 et quelques comme Noé. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut nous dire que Noé était loin d'avoir fini sa vie avec son Dieu, sa marche avec son Dieu. Il avait encore tant d'années à vivre. Je ne sais pas où tu en es ce matin, mais ce que je voudrais te dire, c'est que ce qui était arrivé n'est pas la fin de ton service. Que tant que nous avons un souffle de vie, ça veut dire que notre temps avec Dieu n'est pas terminé, qu'il a encore des choses à nous apprendre, à nous révéler, et qu'il veut encore se servir de ta vie. Amen. Donc ne donnons pas une main d'association à l'adversaire. Mais souvenons-nous ce qu'il est écrit dans Proverbes, au chapitre 17, verset 9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis et divise les frères. » Cherchons à couvrir les fautes, pas en les niant, mais en les couvrant comme les deux fils de Noé ont fait, en apportant une solution qui préserve la dignité et qui préserve la réhabilitation de celui ou celle qui était tombé. Je vais m'arrêter ici, je voudrais vous donner du temps maintenant pour réfléchir à ces paroles que Dieu a laissées sur votre cœur, qu'il a posées sur les miennes, sur mon cœur, pardon. Et si certains d'entre nous ont besoin de répondre à Christ maintenant, bien que vous puissiez totalement saisir l'instant. Parce que c'est aujourd'hui le moment du salut, c'est aujourd'hui le moment favorable, c'est aujourd'hui le moment de la grâce. Et si quelqu'un était dans une ornière, si quelqu'un était dans une souffrance, eh bien, c'est le moment d'en sortir et de réagir, de dire « Seigneur, je prends ta main ». Et si vous connaissez un frère ou une sœur qui est dans cette situation, maintenant la balle est dans votre camp. Qu'allez-vous faire avec cela ? Le plan de Dieu, vous le connaissez. La balle est dans votre camp. Qu'allez-vous faire avec cela ? Que verrons-nous au milieu du peuple de Dieu ? À ceux-ci, tous connaîtront qu'ils sont mes disciples. Comment ? Si ils ont de l'amour les uns pour les autres. Eh bien, que quelle que soit la personne qui entre ici, ma prière, c'est que tous spontanément seront saisis par l'esprit d'amour, l'esprit de pardon, l'esprit de seconde chance qui règne dans cette assemblée. Voilà, je vous laisse maintenant, pour tous ceux qui en ont le désir, répondre à l'appel de Dieu, que ceux qui veulent saisir sa main puissent se lever ou bien élever la voix, comme vous le voulez, mais répondez à son appel.